Lokadama. Le terme Lokadam en birman vient du pali Lokadama. Loka comprend trois divisions: Sataloka, Sankaraloka et Okasaloka. Sataloka signifie tous les savata ou tous les êtres. Chaque être est en effet un loka, c'est-à-dire chaque homme, chaque femme ou animal est un loka. Okasaloka signifie les domiciles, résidences ou les habitations d'êtres. Il y a le monde humain, le monde des devas, le monde des brahmas, le monde des habitants des régions inférieures de misère, l'enfer, le règne animal, le domicile des pétas. Les domiciles d'animaux et pétas sont sur la terre. Les domiciles de Deva et Brahma sont les mondes célestes. Sankaraloka signifie les activités continues des éléments physiques et mentaux d'être aussi bien que les changements et les mouvements de choses inanimées comme la terre, les arbres, les forêts, les montagnes, les domiciles, l'eau, l'air, le feu, etc. En un mot, Sankaraloka constitue tous les processus en évolution de Nama et Rupa, l'esprit et la matière. Le discours que je donne aujourd'hui se rapporte au loka d'être sensible, Savata. Ainsi, loka dans ce contexte signifie être, et Dhamma signifie la loi. Lokadhamma ou Lokadham signifie les conséquences naturelles que chaque être doit recevoir et supporter. Il y a deux suttas pour le sermon à propos de Lokadhamma que Bouddha a fait. Un sutta court et un sutta long. Je cite ici le long sutta de l'original pali. Bhikkhu, les huit manifestations de Lokadham suivent toujours tous les savatas, aussi appelés loka, et tous les savatas ou loka suivent aussi Lokadham. Il y a huit manifestations de Lokadham, et ceux-ci suivent toujours loka ou les êtres. Si un homme marche au soleil, son ombre le suit toujours. Il ne peut pas lui interdire de le suivre. Ainsi, comme l'ombre, ces lois de Lokadham suivent tous les êtres. De la même manière, les êtres poursuivent toujours Lokadham. Les huit lois de Lokadham. Quelles sont les huit lois? Là-bas, la richesse. Alabas, ne pas être riche. Yasa, avoir des personnes autour de soi. Ayasa, n'avoir personne. Ninda, être ridiculisé et critiqué. Pasamsa, recevoir des éloges. Sukha, avoir confort et bonheur. Dukkha, souffrir de la misère. Ces huit lois vont de pair. Laba et Alaba, Yasa et Ayasa, Ninda et Pasamsa, Sukha et Dukkha. Quatre sont bons et les quatre autres sont mauvais. Bien sûr, les gens aiment les quatre bons et n'aiment pas les quatre mauvais. Maintenant, qu'est-ce que Laba? C'est obtenir des choses plaisantes et désirables, des choses utiles, l'or, l'argent, les diamants, les joyaux, le bétail, des éléphants, des chevaux, de la nourriture, des vêtements, des voitures, des maisons, de la terre, etc. Obtenir ces choses par un travail dur ou non est bien. Plus on a, mieux c'est. Être couronné de succès dans les affaires et d'autres domaines signifie être doté de l'abat ou la richesse. Pour les moines, obtenir les quatre choses essentielles, c'est-à-dire les repas, des robes, un monastère et des médicaments, c'est bien. Au contraire, l'abat signifie être privé de ces choses ou échouer dans les affaires. Il est regrettable d'essayer d'obtenir la richesse et d'échouer. On déplorera probablement de ne pas l'obtenir alors que d'autres l'obtiennent. Plus déplorable encore est de perdre ce que l'on a obtenu. Il y a 5 ennemis ou forces destructrices dans la vie, et à cause de ces ennemis, nos biens peuvent être perdus ou détruits. Obtenir la richesse est apprécié de tous, sans exception. Peu importe si on l'obtient par des moyens honorables ou criminels. Cela ne dérange pas les gens malhonnêtes de l'obtenir par des moyens malhonnêtes. Depuis toujours, personne n'aime être dépossédé de ce qui a été acquis ou ardemment désiré. Personne n'aime être réduit à la misère. Yasa signifie avoir des amis et des compagnons, des disciples et beaucoup de gens sur qui on peut manifester son autorité et son influence. Ayasa signifie être privé de ses faveurs. Ici aussi, chacun aime avoir beaucoup de compagnons et de disciples. Tout d'abord, on est célibataire, puis on se marie, on a ensuite des enfants. Et dans la société, on a des amis, des employés sur qui on peut manifester son influence. On aime de telles circonstances et on aimerait avoir encore plus de personnes autour de soi. Si on est privé de ces choses, on déprime. Quand on n'a pas d'amis ou que l'on perd ses employés ou ses disciples, on est alors malheureux. Ensuite, il y a Ninda, qui signifie être critiqué, ridiculisé, et Pasamsa, qui signifie recevoir des louanges et être hautement estimé. Ici aussi, personne ne veut être ridiculisé ou critiqué et ne peut le tolérer. Si on n'a pas de patience et la faculté de pardonner, on est blessé, tout particulièrement quand la critique est méritée. C'est comme laisser tomber un bâton sur une plaie, cela fait très mal. La personne critiquée est gravement blessé. Quant à ceux qui ont un bon esprit, si la critique est méritée, ils ont assez de patience pour la recevoir et examiner leurs fautes avec équanimité. Ici encore, personne n'aime être critiqué ou ridiculisé, qu'il soit jeune ou vieux. Quant à Pasamsa, qui signifie obtenir des éloges, tout le monde apprécie cela, même si ces éloges sont de la flatterie non méritée, on les accepte avec joie. Richesse et bonheur. Ensuite vient la richesse et la misère. Il y a deux sortes de richesses, la richesse matérielle et la richesse mentale. Autrement dit, prospérité et bonheur. Ces deux richesses sont importantes. Si on est doté des deux richesses, on n'a rien besoin d'autre. Les gens s'efforcent toujours de les obtenir. Un vieil homme sage disait « Tout le monde désire ardemment la richesse et est plongé dans une mer de détresse parce que personne ne peut vraiment réaliser son but. Sa remarque est juste. La richesse matérielle et la richesse mentale conjuguées, c'est-à-dire la prospérité, c'est ce que les gens désirent ardemment et se donnent beaucoup de mal pour obtenir. Être libre de la douleur physique et de l'inconfort et obtenir des choses agréables pour vivre est en effet très important. Donc les gens font d'infinis efforts pour l'obtenir. Être libre de toutes sortes de tristesses et être tout le temps heureux est très important, et les gens luttent pour cela. Analysons le problème. Quel est le bien-être matériel et quel est le bien-être mental ? Appelons les deux choses la prospérité. Quelle est la prospérité dans le monde humain et quelle est la prospérité dans le monde céleste ? Elles sont identiques. Pour les réaliser, il faut avoir plusieurs facteurs. Il faut avoir la prospérité, des bénéfices de toutes sortes, une bonne alimentation, une maison confortable, des serviteurs, etc. Si on est doté de tous ces facteurs de prospérité, on sera probablement riche et heureux. S'il y a quoi que ce soit qui manque, une sorte de malaise s'ensuivra. Mais quelqu'un peut-il être pleinement doté de toutes ces choses ? Il n'y a personne dans le monde qui est ainsi doté de toutes ces choses. En luttant pour les obtenir, on doit subir des tas de désagréments et la mer de détresse s'élargit constamment. La détresse comprend le malaise physique et mental. Le malaise physique se rapporte aux douleurs physiques, aux maladies, aux coups, tortures, accidents, etc. Et ceci ressemble au soleil brûlant ou au feu. Bien sûr, personne n'aime cela et les craint. Il y a la souffrance mentale de toutes sortes, comme l'irritation, l'anxiété, la déprime, la tristesse et autres. Bien sûr, personne ne l'aime, chacun la craint. Il y a aussi l'injure verbale, la moquerie, les disputes qui rendent malheureux. Parfois, il y a des gens privés des choses qu'ils aiment et qui leur donnaient du plaisir. Ce manque les rend malheureux. Personne ne souhaite avoir ces désagréments, tout le monde en a peur. Donc les gens doivent être vigilants pour éviter que cela arrive. Maintenant, j'ai terminé la description des 8 lois de l'Okadam. Comme cela a été dit auparavant, chacun aime les 4 bons et n'aime pas les 4 mauvais. Mais qu'il soit aimé ou non, chacun doit supporter les 8. Personne ne peut se débarrasser d'aucun d'entre eux. Personne ne peut tous les fuir. Le bon et le mauvais vont ensemble. Parfois, on peut avoir ce que l'on veut avoir. On peut réaliser son but. Parfois aussi, on ne peut pas obtenir ce que l'on veut obtenir, où on peut perdre ce que l'on avait déjà. Même si on possède certaines choses toute notre vie, on doit les laisser quand on meurt. Ainsi, quand on a là-bas, on a aussi à là-bas qui le suit dans son sillage. On peut à certains moments avoir des collègues, des amis, des compagnons et des disciples. on peut être privé d'eux à d'autres moments. Même le Bouddha, qui avait une grande assemblée de disciples, était parfois obligé de vivre seul. On ne peut espérer toujours faire l'objet d'attention, et enfin, quand on meurt, on doit quitter tous les gens qu'on côtoie. Ainsi, Yasa est toujours accompagné par Ayasa. On nous estime parce que l'on mérite les éloges. Il est bon d'obtenir des éloges, mais on doit travailler dur pour les mériter. Seulement après avoir lutté durement, on obtient l'éloge. L'éloge réel, pas la flatterie. Et on est obligé de continuer à travailler dur pour garder l'estime. Même si on comprend mal ou que l'on déteste quelqu'un, ou s'il arrive d'être critiqué, on souffre de subir une perte d'estime pour laquelle on a travaillé si durement afin de l'obtenir. Même le Bouddha, qui était si pur et sans faute, a été ridiculisé par certaines personnes, alors pour les personnes ordinaires. Donc l'éloge est toujours accompagné de la moquerie. Sukha, le bonheur, et Dukkha, la souffrance, vont aussi ensemble. Si les circonstances sont favorables, on trouve le bonheur et la prospérité. Et si les circonstances sont défavorables, on est dans la détresse. Cela ressemble à la marche à pied. Quand on marche, on appuie seulement sur un pied à la fois, tandis que l'autre pied est soulevé. Ainsi, Sukha et Dukkha s'alternent. On est heureux de rencontrer le bonheur. On devrait faire face au lokadam avec patience et compréhension. Ceux qui sont incapables de patience et de compréhension sont extrêmement heureux et excités quand ils rencontrent les bonnes choses et sont douloureusement déprimés quand ils sont dans la détresse à cause de l'arrivée des mauvaises circonstances de lokadam. On est affligé de rencontrer les mauvaises choses de lokadam. Si on n'obtient pas les cadeaux de la vie, ou si on est privé de ce que l'on avait déjà, si on est seul, sans personne, si on est critiqué ou ridiculisé, si on souffre de maladies et de misère, on est fâché et triste. C'est toujours le cas. Il y a des gens qui deviennent fous ou meurent parce qu'ils sont réduits à la pauvreté. Ils se sentent gravement affectés par la perte de leur richesse. Selon le jainisme, les biens matériels font partie de notre vie. Le péché le plus grand est la cruauté à la vie, et comme les biens font partie de la vie, priver quelqu'un de ses biens revient à tuer cette personne, et c'est donc un péché grave. Les biens, selon cette religion, sont très positifs dans la vie, et si on est privé de biens, on pourrait mourir du manque de nourriture. Dire que la propriété fait partie de la vie est tout à fait logique selon les arguments de cette religion. Alaba pourrait tuer une personne. On est malheureux si on est privé de compagnie, où on se sent mal quand on est soumis à la critique ou à la moquerie. Et la gravité de la tristesse est fonction de l'acuité de la critique et de l'intensité de la moquerie. La détresse est grande dans le cas de diffamation. Les malaises physiques mineurs peuvent être ignorés, mais les maladies et les mauvais traitements de degrés divers sont souvent intolérables et une grande tristesse s'ensuit. Pour l'homme ordinaire, l'okadam est une expérience ordinaire. Les arahats, c'est-à-dire ceux qui sont libres des souillures, des kilesas, sont aussi soumis à l'okadam, bien qu'ils puissent faire face tant aux bonnes qu'aux mauvaises circonstances avec équanimité. Ainsi, dans le Mangala Sutta, le Bouddha dit: l'esprit de l'arahat, qui est attaqué par les 8 manifestations de l'okadam, n'est pas troublé. Pour lui, il n'y a aucune inquiétude ou abattement. Il n'a plus du tout de souillure, de kilesa. Il n'y a plus aucun danger pour lui. C'est en effet l'état le plus haut du bonheur. Le Bouddha et tous les arahats sont libres de toutes les souillures, mais comme ils sont toujours dans ce monde, ils sont aussi inévitablement soumis aux lois de l'okadam. Ils y seront ainsi soumis jusqu'à ce qu'ils passent dans l'état de Nibbana. Quand ils sont ainsi attaqués par les vicissitudes de la vie, ils ne sont pas mentalement affectés, car ils sont capables de maintenir leur esprit stable. Ils ne sont pas ravis quand la prospérité vient, ni déprimés quand l'adversité leur rend visite. Non seulement les arahats, même les anagamis, peuvent résister aux attaques de l'okadam. Quant aux sotapanes et aux sakadagams, ils sont affectés dans une certaine mesure parce qu'ils ne se sont pas encore entièrement débarrassés des plaisirs sensuels, kamaraga, ou de l'inquiétude, vyapada, et de la colère, dosa. C'est pourquoi l'homme riche Anathapindika pleura quand il perdit sa jeune fille Sumana Devi. Visakha en fit de même quand elle perdut une de ses filles. Et encore, il connaissait le Dhamma et était capable de résister à l'attaque du destin dans une certaine mesure. Même une personne ordinaire, un Putujana, pourrait résister à l'attaque si elle s'appuyait sur le Dhamma, bien sûr dans une certaine mesure. Il n'y a aucune autre façon de se protéger des effets néfastes de l'okadam que de s'en remettre au Dhamma, dans lequel nous devrions tous prendre refuge. Il faudrait bien sûr faire de son mieux pour combattre l'attaque de l'okadam par tous les moyens pratiques disponibles, mais si ceci échoue, il faudrait prendre refuge dans le Dhamma. Si, cependant, on ne peut pas réussir à faire face à l'okadam même au moyen du Dhamma, c'est-à-dire de la méditation, il faut accepter les vicissitudes avec autant d'équanimité que possible. Il faut les accepter avec patience. Nous devons penser au fait évident que les manifestations de l'okadam sont rencontrées et acceptées même par des nobles comme le Bouddha et les arahats. Ces nobles ont accepté les attaques avec patience et endurance, et nous devons suivre leur exemple. Il est vraiment important de cultiver cette attitude. Les arahats qui sont attaqués par l'okadam ont purifié toutes les souillures et n'ont pas peur des dangers et des désastres. Ils acceptent les attaques avec une grande équanimité. C'est le meilleur ou le plus noble des mangalas, des bénédictions. Bien sûr, tous les mangalas sont les meilleurs, puisqu'ils sont tous des bénédictions. Mais ce mangala en particulier est du plus haut ordre parce qu'il est complètement possédé par les arhats. Ces nobles ne sont jamais affectés par les attaques de l'okadam. Leur esprit reste calme et stable. Ils connaissent toujours la stabilité mentale qui signifie le bonheur. Le Bouddha l'a placé en dernier de tous les mangalas dans son sermon à propos du Mangala Sutta parce que c'est le plus haut de tous. Les yogis qui pratiquent maintenant la méditation devraient lutter pour l'accomplissement de ce mangala. Ce mangala est étroitement associé à la pratique de la méditation parce que, comme le yogi note mentalement les incessantes apparitions et disparitions des phénomènes et voit la nature d'anicca, dukkha et anatta, et comme le yogi se rend compte qu'il n'y a, après tout, pas de créature vivante ou de mort parce que, aussi bien l'être vivant que le mort, sont une composition d'éléments gouvernés par anicca, dukkha et anatta, le yogi est capable d'accepter patiemment les attaques de l'okadam. Cependant, la personne qui ne médite pas considérera tous les phénomènes comme permanents, lui procurant du plaisir, il verra aussi son propre corps comme son moi. Il est donc heureux et excité quand les bonnes choses de la vie viennent à lui, et déprimé et diminué quand de mauvaises choses prennent la place des bonnes choses. Pour différencier celui qui connaît le Dhamma et celui qui ne le connaît pas, le Bouddha posa la question suivante. Moine, disons qu'un être ordinaire qui n'a pas la connaissance, un putujana, est visité par les 8 manifestations de l'okadama, et qu'une personne ayant la connaissance, un ariya, est de même visitée par eux. Quelle est la différence dans la réaction des uns et des autres? Qui fait les efforts pour résister à l'attaque les plus importants? Maintenant, il y a 2 sortes d'êtres ayant la connaissance ou la sagesse. C'est-à-dire qu'il y a 2 sortes de sutta. Ce sont Agama Sutta et Adigama Sutta. Le premier se rapporte à l'acquisition d'informations à propos des paroles du Bouddha. Ces informations indiquent que les 8 manifestations de l'okadama sont communes à tous sans exception et que personne ne peut les éviter. Et aussi que tous les événements sont liés, comme c'est le cas d'autres actes et actions, par anicca, dukkha et anatta, avec la conscience du corps rupa et de l'esprit nama. C'est une simple acquisition de connaissances. Et cela est appelé Agama Sutta. Adigama Sutta est la réalisation profonde de la vérité, les 4 nobles vérités, par la méditation vipassana. Une telle réalisation et la simple acquisition d'informations sont nécessaires à chacun pour résister aux attaques de l'okadama. Le Bouddha a demandé la différence entre la réaction de celui qui ignore cela et de celui qui connaît parfaitement cela. Les moines répondirent « Ô Seigneur, tout le Dhamma provient du Bouddha, qui est celui dans lequel nous prenons tous refuge, et c'est au Bouddha d'exposer le Dhamma. Il serait donc bien que le Bouddha donne un sermon que nous écouterons et chérirons toute notre vie. » Cela signifie que les moines demandèrent au Bouddha de répondre à sa question lui-même. Le Bouddha dit qu'un putujana, un être non informé, ne reçoit pas le cadeau de prospérité avec la conscience qu'il subira des changements conformément aux lois naturelles d'anicca, causant dukkha, et qu'il n'appartient pas à quelqu'un, n'existant aucune chose telle que moi, anatta. Il reçoit le cadeau avec joie, pensant « c'est le mien, il m'appartient ». Il ne connaît pas la réalité. De telles personnes non informées acquièrent la richesse et des propriétés en les gagnant ou en les obtenant sans vraiment essayer durement. Ils prennent cela pour le succès. Ils pensent que ceux-ci sont les leurs, que ceux-ci leur appartiennent. Ils ne se rendent pas compte que ces choses ne sont après tout pas permanentes. Elles seront perdues ou détruites par le vol ou le feu. Elles se dégraderont ou seront détruites à la suite de circonstances défavorables pour être finalement perdues. Ces gens ne se rendent pas compte qu'eux-mêmes ne sont pas immortels, éternels. Parce qu'ils sont constitués de nama l'esprit et rupa le corps qui sont périssables. Ils ne se rendent pas compte que la richesse et les biens qui sont en leur possession leur causent de l'inquiétude, du souci et des ennuis de toutes sortes. Ces personnes sont non informées. Dans les endroits où le bouddhisme n'existe pas, les gens n'ont pas de telles informations. Même en Birmanie, il y a des gens qui n'ont pas été ainsi informés et sont donc non informés de la réelle cause des vicissitudes de la vie. Dans le cas de la perte de richesse et de biens, celui qui n'est pas bien informé est incapable de pondérer par rapport au caractère éphémère des choses et pour cette raison souffre de la misère. Ceux qui sont incapables de comprendre la vérité à propos du cadeau de la richesse et de la prospérité comme impermanente ressentent de la joie quand le cadeau est en leur possession. Mais ces possessions ne créent pas d'état mental méritoire, ni la chance d'écouter un serment religieux ou de pratiquer la méditation, parce qu'ils sont trop occupés à gagner de l'argent. De telles personnes ne peuvent pas tolérer la perte de leur richesse, ne peuvent pas non plus essayer de gagner encore plus. S'ils ne peuvent obtenir la richesse, ils sont déçus, et s'ils perdent ce qu'ils ont, ils sont déprimés. Il n'y a aucune chance pour leur esprit d'être dans un état méritoire. Ils passeront leur temps à pleurer pour la perte. Bien sûr, le degré de leur joie et leur douleur concernant le gain et la perte de leur richesse dépend de la dimension de leur richesse. Donc, le Bouddha continua d'expliquer que celui qui a la richesse ressent du plaisir et de la tristesse quand la richesse obtenue est perdue, selon la valeur qu'il accorde à la richesse. Il est heureux quand il obtient la richesse et est fâché quand il la perd et continue à se plaindre de la perte. Un tel putujana, celui qui se réjouit du gain et qui pleure pour la perte, renaîtra à nouveau, donc il ne sera pas libéré de la souffrance liée à la vieillesse et à la mort, de l'inquiétude, du chagrin, pleurant pour toutes les sortes de malheurs. Ainsi, dit Bouddha. Se réjouissant pour le gain et pleurant pour la perte, la personne n'a pas de temps pour faire de bonnes actions et un état d'esprit méritoire, parce qu'elle est tout le temps prise dans l'oba, l'avidité, et dosa, l'aversion. Elle n'a pas de temps pour faire l'effort de sortir du samsara, et donc elle n'est pas libre de la misère, de la renaissance, de la vieillesse et de la mort. L'inquiétude, le chagrin et l'abattement sont fréquents. Ensuite, il y a les soucis pour maintenir ses biens intacts, pour les protéger contre d'éventuels ennemis, et la personne perd ainsi le sommeil et l'appétit. Ce sont des problèmes, et seulement si on peut ignorer ces problèmes, on peut être soulagé. Ces remarques peuvent être appliquées aux trois autres paires de manifestations de l'Okadama.